Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, quand les nouvelles technologies changent notre vie quotidienne. Deux changements aujourd'hui, les billets SNCF en vente sur Facebook. Mode d'emploi avec Béatrice Duguay dans un instant. Et le péage franchi à 50 km/h sans la moindre barrière. Innovation sur l'autoroute A4. Le commerce se développe sur Internet et des grands magasins souffrent. 9 Castorama, 2 Brico Dépôt vont fermer en France dans les mois à venir. 800 salariés sont concernés. Le Brexit. C'est aujourd'hui que la Grande-Bretagne doit demander officiellement un report. Les Européens vont-ils y mettre des conditions? Lesquelles? Nous irons à Bruxelles. L'actualité, c'est encore pourquoi le pape refuse la démission du cardinal Barbarin. La République en marche qui parle de laïcité et la certification pour les professionnels de santé tout au long de leur vie. Et puis c'est le printemps. Information bien reçue par Henri et Nicole.
Bonjour mesdemoiselles, il y a de la joie. Tiens
yeah. Ça me rappelle ton jeune temps.
Ah oui, ça c'est vrai, ça me rappelle mon jeune temps. Bah oui, là.
Voilà pour cette petite photo sonore captée par Jules Brella à Poitiers. Sébastien Léas, Météo France, bonjour.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Vous confirmez, c'est le printemps?
Effectivement, premier jour de printemps sous le soleil et un ciel quasiment tout bleu sur une large moitié sud et de l'est parisien au Jura et au Grand Est. L'après-midi sera quand même un peu venté sur le pourtour méditerranéen et Auvergne-Rhône-Alpes. Ciel plus variable sur les régions du Nord-Ouest avec quand même quelques éclaircies mais surtout des nuages généralement prédominants. Et puis côté température, prévoyez une nouvelle hausse de 12 à 18 degrés cet après-midi avec 15 degrés pour Agen, Paris et Grenoble.
C'est le printemps et c'est la journée interclasse sur France Inter. Trois invités dans ce journal de 13h que nous accueillons avec grand plaisir. Tous trois viennent du collège Jean Villard de Grigny, classe de 3e. Bonjour Eurydès.
Bonjour.
Alors toi tu es à Grigny mais tu viens de Corbeil-Essonne. Un mot pour présenter Corbeil-Essonne.
Bah, c'est une ville qui descend et il y a plein d'activités là-bas. Et avec des enfants et des adolescents et tout âge.
C'est une ville qui descend parce qu'il y a une grande pente. Bonjour Aboulaye.
Bonjour.
Grigny, en un mot.
Grigny c'est bien. Les écoles aussi, ils sont bien, il y a beaucoup d'enfants.
Une ville où il y a beaucoup d'enfants, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Bonjour Bénédicte Peraldo.
Bonjour.
Ce collège, en un mot, comment on le présente, Jean Villard?
On le présente comme un collège hétéroclite, on va dire.
Hétéroclite. On parlera cuisine, transport et de tout ce que vous voulez tout à l'heure à partir de 13h20. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti. L'époque où le voyage en train s'achetait au guichet, uniquement au guichet, s'éloigne un peu plus. On peut désormais acheter ses billets SNCF sur Facebook. Écoute Aboulaye, je sais que tu es fan de transport. Alors c'est en place aujourd'hui. Bonjour Béatrice Duguay.
Bonjour.
Vous avez voulu savoir comment ça marche.
Avec l'aide de Xavier Demagny de la rédaction Web, connexion via son compte Facebook, oui SNCF dans la barre de recherche du réseau social.
Et là, il m'interpelle vite, il affiche une boîte de dialogue, en fait.
Il dit bonjour ou...
Il me dit bonjour, il me propose de réserver un billet, comme si c'était un ami Facebook qui venait parler, en fait. Il dit bonjour, je voudrais réserver un Paris-Grenoble.
Et le robot demande à Xavier s'il a une carte de réservation. Il fait bien son boulot. La réponse est pour ainsi dire instantanée avec le tarif le moins cher proposé en premier sur un menu déroulant horizontal.
En revanche, c'est pas hyper clair parce que là, je crois que j'ai choisi un trajet avec une correspondance alors que normalement, on peut faire le trajet direct.
Menu dans une petite fenêtre sur cet écran d'ordinateur, mais pleinement adapté au smartphone des Facebookers. Les conditions de voyage sont présentées, changeables, remboursables, etc. Et si votre carte bleue est enregistrée sur votre compte SNCF?
Je peux payer directement depuis Facebook. Il suffit de faire continuer. Il me demande si ce voyage est bien pour moi avec mon identité. Tu n'as plus qu'à payer ton billet ou poser une question. C'est amusant parce qu'il nous tutoie. C'est très friendly.
Alors, on voit bien ce que nous, on y gagne. Qu'est-ce que la SNCF et Facebook gagnent dans cette affaire, Béatrice?
Alors, pour la SNCF, un accès potentiel aux 35 millions de Français membres du réseau social. La SNCF espère notamment toucher les clients des TER, dont la vente de billets est nettement moins digitalisée que celle des TGV et des Intercités. Ça n'est pas forcément du goût des associations de voyageurs et des syndicats, d'ailleurs, qui y voient une nouvelle occasion de fermer des guichets. Pour Facebook, pas directement d'argent payé, mais une fidélisation d'utilisateurs tentée par d'autres réseaux, et puis un accès à de nouvelles données. Évidemment, ça, nous savons que ça vaut de l'or pour le réseau social.
Le compteur Linky contre ses adversaires, une nouvelle étape en justice, c'est une première. Le tribunal de grande instance de Toulouse ordonne à Enedis de ne pas installer le compteur chez des personnes électro-hypersensibles. Certificat médical à l'appui. Enedis fait appel en soulignant que des demandes identiques dans d'autres régions en France ont été rejetées. Autre innovation dans notre vie quotidienne aujourd'hui, le passage au péage sans la moindre barrière. Échangeur de boulets, autoroute A4 depuis ce matin, on passe à 50 km/h. Alors là aussi, comment ça marche? Réponse avec François Pelleret. D'abord, cet échangeur, pourquoi celui-ci? Pourquoi celui-ci a-t-il été choisi?
Parce qu'il y a une majorité d'abonnés, des travailleurs qui passent par là chaque jour. Ils sont 55% à être équipés d'un télépéage, soit environ 3300. Donc pour eux, il n'y aura pas de changement. Et puis de toute façon, la SANEF devait faire des travaux sur cet échangeur, donc autant aller de l'avant. Elle a investi 5 400 000 euros, plus d'un an de travaux pour retirer les barrières, les cabines et installer des portiques. Ils ressemblent à ceux destinés à l'écotaxe et qui n'ont jamais servi. Ils ont des antennes, des lasers et 10 caméras pour lire les plaques d'immatriculation et ils seront capables de distinguer les camions des voitures et des motos. Fini les bouchons du matin, on pourra passer à 50 à l'heure, le télépéage bipera comme d'habitude ou alors l'étiquette d'abonnement sera lue ou bien nous aurons 10 jours pour régler sur le site boulet.sanef.com. Enfin pour ceux qui préfèrent régler tout de suite en liquide, une borne sera installée juste après le péage et il y aura encore un des agents de la SANEF pendant au moins 2 semaines pour nous orienter.
Nous avons commencé ce journal avec l'accord entre Facebook et la SNCF, le commerce qui se développe sur les réseaux sociaux, sur Internet et les magasins physiques qui souffrent. Le groupe britannique de bricolage Kingfisher annonce un plan de fermeture de magasins en difficulté en France. 9 Castorama, 2 Brico Dépôt dans les mois à venir. Cela concerne 800 salariés environ. Sarah Lemoine.
D'après les syndicats, la direction a annoncé la fermeture de 11 magasins jugés pas assez rentables. Castorama va payer le plus lourd tribut. 9 magasins vont fermer leurs portes en 2020. Ils sont situés à Hellem, Ponto, Erani, Darnetta, Les Anvilles, Ballainvilliers, Angers, La Défense et le dernier à Paris, dans le 19e arrondissement. Avec à la clé 698 postes supprimés, toujours selon les syndicats. Également dans le viseur, l'enseigne Brico Dépôt avec 2 fermetures de magasins à Flins et Calais, soit 90 postes supprimés. Un coup dur pour les salariés qui subissent déjà un plan de transformation très lourd depuis fin 2017, avec 400 emplois supprimés et la délocalisation en Pologne de certains services comme la comptabilité. Un plan qui n'a pas porté ses fruits et qui va entraîner le départ de la directrice générale du groupe Kingfisher, la Française Véronique Loury.
Voilà pour ces précisions de Sarah Lemoine. Au sein de La République En Marche, on débat ce soir de laïcité. Emmanuel Macron a fixé le cadre lundi soir lors de son débat avec les intellectuels à l'Élysée.
Je ne souhaite pas qu'on change la loi de 1905 et ce qu'elle représente et ce qu'elle permet de préserver. J'ai souvent dit, je ne demande à personne en République de croire modérément ou pas. Je veux que chacun puisse croire ou ne pas croire librement, que dans le cadre de sa foi, ça puisse être aussi absolu qu'il ait besoin de la vivre. Mais je demande aux mêmes citoyens de respecter absolument toutes les règles de la République.
Voilà pour ces propos lundi sur France Culture. Bonjour Karine Bécard.
Bonjour.
Le débat entre marcheurs se tient au siège du parti tout à l'heure dans le quartier Opéra. Le sujet de la laïcité divise toujours les marcheurs, Karine, en particulier le voile.
Oui, on s'en était rendu compte notamment quand la polémique était apparue sur le hijab que la marque Decathlon souhaitait développer et bien sûr commercialiser. Cela remonte à la fin du mois de février dernier. Et c'est vrai que les députés de la majorité sont assez divisés sur la question la laïcité. Ils sont même très divisés sur cette question du voile en particulier. François Cormier-Bouligeon est un élu du Cher, attentif à toutes ces questions et lui défend une application ultra stricte de la loi de 1905.
Nous devons protéger l'ensemble de nos concitoyens et en premier lieu les concitoyens de culte et de culture musulmane contre les fondamentalistes qui veulent marquer le territoire à travers des signes ostentatoires qui ne sont pas religieux mais politiques. Moi je considère que le foulard n'est pas un signe religieux. C'est un signe politique.
Alors on est loin, très loin, du point de vue du député Aurélien Taché, dont on a beaucoup entendu parler. Il a une conception plus libérale, plus communautariste, diront chers certains, de la laïcité. Mais entre les deux, ils sont nombreux aussi ces élus macronistes qui rappellent que la laïcité, c'est la liberté de culte accordée à chacun, la députée de l'Hérault, Coralie Dubost.
Moi je ne considère pas que la religion musulmane soit un courant politique. Ou alors il faut considérer toutes les religions comme un courant politique, ce qui n'est pas mon point de vue. Je suis contre l'idée de généralisation. Je suis contre l'idée que, parce qu'il y a des franges radicales qui revendiquent des opinions politiques, il faille les attribuer à la totalité d'une religion, y compris les plus modérées.
Donc la majorité est incontestablement morcelée sur le sujet. Et ce qui est amusant, c'est que chaque camp se rassure en étant persuadé que c'est son courant qui est majoritaire.
Bonjour Daniel Messager.
Bonjour Bruno.
Spécialiste des questions de santé à France Inter, le projet de loi santé en débat en ce moment à l'Assemblée et cet amendement cette nuit sur la certification des professionnels de santé. Jusque-là, il était question d'une certification uniquement des médecins pour s'assurer qu'ils sont bien à jour des connaissances au fil de leur vie. Là, ça a été étendu à tous les professionnels de santé.
Alors, ça a été étendu aux chirurgiens dentistes, aux sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, kinés et pédicure-podologues. Alors, ce principe de certification est plutôt bien vu par les syndicats médicaux, en tout cas, parce qu'elle est validée par leurs pairs. On ne va évidemment pas les faire revenir à la fac pour leur faire repasser un examen. Concrètement, cette certification devra intervenir tous les 6 ans. Par exemple, pour les médecins, elle portera sur leurs activités et les formations suivies, le tout consigné dans un espace numérique dédié, validé par le Conseil de l'Ordre. Les formations, elles, sont assurées par l'Agence nationale du développement professionnel continu, qui propose différentes spécialités. Elles sont nombreuses, vous le savez, en médecine, de la cardiologie aux addictions. Et le médecin s'y inscrit. À l'issue, il y a une attestation, une preuve. Le médecin ne pourra pas s'inventer des formations non suivies. C'est indispensable dans le milieu médical, car les connaissances évoluent en permanence. Le professeur Serge Usan, auteur d'un rapport, 50%, disait-il, 50% des données en médecine varient de façon significative tous les 5 ans. La mesure s'appliquera d'office aux médecins diplômés. Ce devrait être à partir de 2021, sur la base du volontariat pour ceux qui sont déjà installés.
Les réformes en cours, les autres à venir à propos des retraites d'avis personnel en rétropédalage. On a compris, le débat sur une hausse éventuelle de l'âge de départ à la retraite est bien ouvert. D'ailleurs, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, l'a clairement assumé ce matin. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour Bruno.
C'est la ministre en charge de ce dossier, Agnès Buzyn, qui a lancé la première mèche dimanche dernier. La question est rouverte alors que la promesse d'Emmanuel Macron, c'était de la laisser close, cette question de l'âge de départ à la retraite.
Oui, c'est un changement de cap majeur pour la réforme. Si l'âge de départ légal à la retraite devait de nouveau être décalé, ce n'est pas mon débat, explique Jean-Paul Delevoye, en charge de la concertation. Ce débat sur l'âge légal est en contradiction avec la nature même de la négociation en cours, estiment les partenaires sociaux. La retraite par point n'a techniquement pas besoin que l'on touche à l'âge de départ légal. C'est donc un autre débat totalement politique que le gouvernement souhaite ouvrir et qui n'a rien à voir avec l'équilibre financier du système des retraites, explique Frédéric Sève, négociateur de la réforme de la CFDT.
On veut économiser de l'argent sur la retraite. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas pour le bénéfice des retraités, c'est pas pour le bénéfice des salariés qui cotisent pour la retraite qu'on envisage ces mesures-là. Et c'est en ça que c'est problématique et même un peu scandaleux en pleine discussion. Monsieur Darmanin lui dit c'est pour faire baisser la dépense publique. Certains parlent de financer la dépendance. Bon, enfin, là, c'est au gouvernement de clarifier ses intentions. Mais j'insiste pour dire que le travail a été fait. C'est-à-dire que les régimes de retraite sont équilibrés et ils seront équilibrés sur les décennies à venir. Donc il n'y a pas de sujet retraite en termes de financement.
Pourquoi ouvrir alors une telle polémique, un tel débat polémique qui ne fera pas avancer une réforme déjà compliquée? Deux camps s'affrontent au gouvernement, celui qui soutient la réforme par points menée par Jean-Paul Devoye et en face une approche budgétaire qui estime que décaler l'âge légal de départ à la retraite serait bien plus efficace et bien plus simple économiquement parlant.
Merci Laurent Kramer. Un tremblement de terre 4,9 degrés, assez fort donc ce matin dans le nord de la Gironde, limite Gironde-Charente-Maritime. Il a été ressenti jusque dans certains coins de Bordeaux. Le siège de Sud-Ouest qui a donné cette information en premier a vibré.
France Inter, Bruno Duvic.
Arrachez-vous les cheveux, nous allons parler du Brexit. Nous sommes à 9 jours de l'échéance et le brouillard est très très loin d'être dissipé. Alors premier point, s'il ne se passait rien d'ici le 29, ce serait une sortie sèche, brutale. Le plus probable à ce stade, c'est un report du Brexit. La demande officielle de la Grande-Bretagne doit arriver aujourd'hui. Bonjour Angélique Boin.
Bonjour.
Correspondante de France Inter à Bruxelles. Et c'est une dernière minute qui vient d'arriver là sur le fil de l'agence France Presse. Theresa May annonce avoir réclamé à l'Europe un report du Brexit jusqu'au 30 juin.
Oui, effectivement. Mais du côté des Européens, la lettre, en tout cas, il y a encore quelques minutes, n'était pas arrivée. Donc, on l'attend ici à Bruxelles et on espère qu'elle sera motivée. Je vous cache pas ici que dans les couloirs des institutions, encore ce matin, on sentait de l'exaspération. Un haut responsable européen expliquait que les 27 allaient faire de preuve de patience à nouveau avec Theresa May, comme ils en ont pris d'habitude, a-t-il souligné, ajoutant quand même que l'incertitude et le manque de clarté, ce n'est pas de notre fait. On attend donc cette lettre, motivée, dans la journée, et au plus tard demain à 15h, hein, quand les 27 chefs d'État et de gouvernement recevront Theresa May pour le sommet européen qui est prévu de longue date et qui devait être l'acte ultime de cet interminable feuilleton. Sommet donc au cours duquel on va discuter, hein, des conditions de ce report qui, je le rappelle, doit être décidé décidé à l'unanimité. Si c'est un report court, ce que l'on apprend effectivement à l'instant, eh bien, il devrait être accordé. Hein, on ne voit pas les Européens endosser la responsabilité d'une sortie brutale des Britanniques dans 10 jours. Mais cette demande doit être assortie d'une stratégie claire de la part de la première ministre britannique. Sinon, à quoi bon lui donner 3 mois de plus? C'est ce qu'on dit ici dans les ambassades. Je précise qu'Angela Merkel a déclaré hier vouloir se battre jusqu'à la date butoir pour obtenir un Brexit ordonné. S'il faut pour cela organiser un autre sommet d'urgence la semaine prochaine, certains y sont prêts. Hein. C'est ce qu'a indiqué le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, à une radio allemande ce matin.
Et si cette date du 30 juin est bien confirmée, il faut savoir qu'il y a les élections européennes le 26 mai. Est-ce que les Britanniques y participeront ou pas? Il y aura à répondre très clairement également à cette question. Merci Angélique Boin. On aura sans doute plus de détails dans nos journaux ce soir avec Amélie Perrier et Sébastien Paour et nos correspondants à Bruxelles et Londres. Il y a assez peu de voix ce matin en France pour défendre la décision du pape François, refuser la démission du cardinal Barbarin. C'est assez inédit. Même la conférence des évêques de France a pris ses distances. Écoutez l'un de ses porte-parole, Vincent Némon.
On a été étonnés parce que nous pensions que le cardinal, présentant lui-même sa démission, les choses étaient entendues et que, de fait, le pape y accéderait. Cela était la bonne solution à la fois pour le cardinal, aussi pour le pape, aussi pour le diocèse. Donc c'est vrai que nous sommes dans une situation un peu inédite.
Un propos recueilli par Julie Pietri. Rappelons les faits. Le cardinal Barbarin, condamné en première instance pour ne pas avoir dénoncé les agressions sexuelles du père Prénat, il doit être jugé en appel. Le pape estime que ce serait bafouer la présomption d'innocence que d'accepter déjà sa démission. Que dit-on à Rome de la petite rébellion des évêques de France? Écoutons le vaticaniste Francesco Grana. Il travaille au journal Il Fatto Quotidiano.
D'après moi, Philippe Barbarin s'est complètement trompé avec le pape parce qu'on ne se comporte pas comme cela avec le pape. On n'annonce pas ce qu'on va dire au pape en audience privée. On rencontre le pape et on parle. On ne crée pas de pression médiatique sur le pape. Et si le pape refuse la démission, on ne comprend pas pourquoi Barbarin ne veut pas gouverner le diocèse de Lyon. Barbarin a un mandat pour gouverner le diocèse de Lyon et c'est à lui de le faire. Et de ne pas en confier la gouvernance à des prêtres.
Voilà pour ces propos de Francesco Grana, le vaticaniste, à propos de la réaction de la Conférence des évêques de France à la décision du pape François. Bonjour Eva Bétan.
Bonjour.
Au cinéma cette semaine, il y a Catherine Fraud dans la comédie Qui m'aime me suivent, Sunset du cinéaste hongrois Laszlo Nemes.
Très intéressant.
Et puis on parlait à l'instant de l'affaire Barbarin, un film qui fait écho à Grâce à Dieu dans le diocèse de Lyon au cinéma cette semaine. Alors deux différences. C'est un documentaire, ça se passe dans la communauté ultra-orthodoxe juive de Tel Aviv. C'est M de Yolande Zobermann.
Alors c'est vraiment, Yolande Zobermann, je vous dis en deux mots, il faudrait revenir à l'origine à ses premiers documentaires. Elle s'est toujours intéressée au monde qui échappait à notre regard, auquel on ne pouvait pas rentrer. Elle avait fait un film en Afrique du Sud qui s'appelait Classified People, un film en Inde qui s'appelait Caste criminelle. Là, elle va regarder un monde fermé, un monde qui échappe effectivement à notre regard, c'est le monde des ultra-orthodoxes en Israël, mais aussi au mal qui est à l'intérieur. Le personnage principal, il nous saute au visage, je ne vois pas d'autre expression que celle-là. Il a 35 ans, il s'appelle Menahem, il est aujourd'hui acteur, il a quitté ce monde-là depuis longtemps, il avait dénoncé les faits, ce qu'il avait subi à la télévision israélienne, il a été violé enfant, notamment par un rabbin. Ce film est incroyable parce que c'est pas un documentaire classique, je dirais. Elle ne raconte pas des faits. On va voir les faits advenir. Ils vont advenir devant la caméra. On se dit que Menahem n'aurait peut-être pas fait ce qu'il va faire s'il n'y avait pas une caméra derrière. C'est quasiment sûr. Et elle veut qu'il en sorte quelque chose. Mais le contrat est honnête. Il est clair. Il n'y a pas de manipulation. La caméra n'est pas prédatrice. La caméra, et c'est pour ça qu'un film a des biens et bienveillantes. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut retourner dans son quartier. Et il veut aller hurler en dessous des fenêtres du violeur. Et il va se passer des choses incroyables dans ce film. Déjà que la caméra entre dans un quartier fermé comme celui-là. Mais aussi que la parole, comme on dit, se libère aussi facilement. Que des hommes disent « j'ai été violé par un père, par un rabbin ». Sam, il n'y a pas de statistiques, tant de cas de pédophilie, non. Il y a des questions qu'on se pose. Est-ce que c'est parce que c'est un milieu fermé que des choses comme cela se passent? Est-ce que c'est inhérent aux religions où des hommes vont avoir une domination sur les autres par la question de la foi? Il n'y a pas de réponse. Il y a aussi une chose très belle dans ce film, et j'insiste sur la caméra bienveillante, c'est qu'il y a une sorte de réparation qui s'opère. On voit Menahem heureux d'être venu parmi les siens, malgré ce qui s'est passé.
Le film s'appelle M de Yolande Zoberman. Il est au cinéma cette semaine, vivement recommandé par Eva Bétan. Comme promis, nos trois invités du jour. Si ma voix tient jusqu'à 13h30, c'est pas gagné, c'est pas sûr. Bénédicte Peraldo, Eurydès Aboulaye, tous les trois du collège Jean Villard de Grigny. On écoute un extrait de votre travail, de votre reportage. On écoute.
Ma première image, tous les ingrédients de la recette. Donc, j'ai pas la planche, j'ai pas ça par exemple. Je calcule dans mon cadre. J'enlève ma planche, je mets tous les ingrédients, on tourne.
D'accord, ok.
Cut.
Mais qu'est-ce que c'est là, ce qu'on vient d'entendre? Vas-y, Aboulaye. Une diffusion. Mais c'est quoi en fait? Qui parle? C'est un extrait de reportage que vous avez fait, sur quoi? Sur Social Media Food, c'est ça?
Oui.
Qui en fait forme à l'image en cuisine. Voilà, donne des formations pour qu'on sache faire des images et des vidéos en cuisine. Parce qu'en fait, dans le cadre d'Interclass, ce partenariat entre France Inter et différents collèges et lycées, c'est la quatrième saison d'Interclass. Vous avez choisi de parler de cuisine. Pourquoi avez-vous choisi de parler de cuisine? Qui commence? Eurydès Aboulaye?
On a choisi de parler de cuisine parce qu'au début, on parlait sur les transports innovants et tout le monde n'était pas d'accord. Et donc... on a essayé de trouver un sujet et finalement on est tombé sur la photographie de cuisine.
Alors vous allez me dire on parle de cuisine parce qu'il faut parler de bien manger, de manger bio, de cultiver soi-même ses fruits et légumes. Mais en fait vous êtes tout le temps fourré dans les fast-food, non, Aboulaye?
Pas tout le temps, mais après ça dépend. Plus la cuisine à la maison.
Qui fait la cuisine chez toi? Tu la fais un peu?
Et parfois moi, parfois les parents. Après, ça dépend.
Qu'est-ce qui t'intéressait dans ce sujet de la cuisine?
Apprendre les recettes.
Ouais.
Bien manger, comment faut faire.
Ça veut dire quoi, bien manger?
Bien manger en 2019, manger équilibré, sainement, ouais. Pas avoir des problèmes.
Et là, je vois un sourire sur le visage de Bénédicte Peraldo. Comment tout ça s'est mis en place? L'idée d'Interclass cette année, le thème, c'est vivre en France en 2019.
Oui.
C'est ça?
Alors nous, on avait déjà donc fait les groupes. Et en fait, on a laissé vraiment les groupes choisir les thématiques dont ils avaient envie de s'emparer. Mmh. Et c'est vrai que du coup, chaque groupe est parti dans un univers très différent. Mmh. Et donc voilà, et c'est vrai, comme le dit Eurydès, au début ils étaient partis sur les transports innovants, mais ils n'arrivaient pas à avoir... tout le monde n'était pas d'accord, tout le monde n'arrivait pas à être intéressé par ce sujet.
Transport, parce que de votre point de vue, ce sujet-là leur parle à eux en particulier, ces adolescents-là?
Alors, oui, ça leur parle, ouais. Et surtout, Aboulaye est passionné par les transports, et c'est vrai que du coup, c'est quelque chose qui est important pour eux. Aussi peut-être parce qu'ils vivent à Grigny et que... dans la Grande Borne, en fin de compte, les transports il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits et les transports en commun en fait traversent la Grande Borne alors que jusqu'à présent ils n'allaient pas à l'intérieur du quartier. Je sais pas si c'est tout ça en fait, le Grand Paris, enfin toutes ces choses-là en tout cas font qu'ils sont intéressés par les transports pour innovants.
Pour avoir une idée, ça donne une idée de votre vie quotidienne à vous. Vous venez de Grigny, vous êtes venu pour cette émission à la Maison de la Radio, vous avez mis 2 heures, alors que Grigny-Paris, c'est pas beaucoup de kilomètres à vol d'oiseau, vous avez mis 2 heures. Ça raconte quelque chose de la distance qui existe parfois entre Paris et banlieue. Pourquoi disais-tu dans les titres à Aboulaye que Grigny, c'est une ville où il y a beaucoup d'enfants? Qu'est-ce que ça veut dire?
Parce que Grigny, c'est une ville avec... beaucoup d'accueil pour les enfants, les centres aérés, les maisons de quartier.
Ouais.
Il y a beaucoup d'écoles, beaucoup de parcs, beaucoup de loisirs pour les enfants et aussi pour les parents.
Le transport de demain, puisque tu es passionné par les transports, c'est quoi le transport de demain?
Alors, le Grand Paris Express qui fera 200 km de transport, avec notamment les lignes 15 jusqu'à la ligne 18 du Grand Paris Express. Qui seront 100% automatiques sur toute la ligne.
Dans l'actualité, aujourd'hui, il y a une nouvelle étude sur le classement des lycées. Et j'avais envie de parler de ça avec vous parce qu'au fond, on essaye désormais de classer les lycées de manière un peu plus intelligente. Jusque-là, c'était quels sont ceux qui ont les meilleurs résultats au bac. Pour un collège, on dirait quels sont ceux qui ont les meilleurs résultats au brevet. Là, on essaye de voir quels sont les établissements qui font progresser les élèves. C'est quoi un bon collège pour vous ? Eurydice, tu dirais quoi ?
Bah, pour moi, un bon collège, c'est un collège où tout le monde s'entend bien et il y a des bonnes relations entre les profs et les élèves. Et aussi où les élèves ont aussi un bon comportement et des notes moyennes.
Aboulaye, tu réponds quoi à cette question ?
Un bon collège, pour moi, une bonne entente avec les élèves, les professeurs, avec un minimum d'efforts, de travail, de compréhension envers tout le monde. Mmh. Une bonne entente, que ce soit dans la récréation, dans les couloirs, dans les cours. Un bon respect des règles et aussi la liberté.
Est-ce que ça a un sens pour toi qu'on classe les collèges, les lycées comme ça ?
Après, ça dépend de l'élève parce que tout le monde n'a pas le même niveau
ouais.
qu'un élève. Par exemple, un élève peut avoir 18 de moyenne, tandis que l'autre peut avoir 15, 16. Après, ça dépend des notes qu'il a et comment il travaille.
Bénédicte, qu'est-ce que vous répondez à cette question ? Qu'est-ce qu'un bon collège ? Vous, la prof de français ?
Moi, je pense qu'un bon collège, c'est avant tout l'équipe éducative qui se questionne justement sur son public, sur ses attentes, puisqu'il n'y a pas qu'un seul collège. Je pense que selon où on travaille, on a des objectifs et un but qui est différent. Après, un bon collège, c'est celui qui a... c'est un collège qui met tout en place pour intéresser ses élèves, mais surtout aussi les ancrer dans une réalité. Mmh. Et là, je parle peut-être pour Grigny. Et les amener justement à réussir au mieux leur avenir.
C'est la quatrième saison d'Interclasse. Vous suivez ça peut-être pas depuis le début, mais quasiment depuis le début. Vous faites partie des profs qui sont là depuis le début. Ça vous apporte quoi à vous et ça apporte quoi aux élèves ?
Alors moi, ça m'apporte énormément de choses. Déjà, j'ai découvert le monde des médias parce que quand on est extérieur, même si on fait des séances sur la presse au collège... Eh ben on n'a pas du tout le même regard. Donc moi, j'apprends.
On rappelle, il y a des rencontres régulières avec des animateurs, des journalistes de France Inter.
Exactement.
Et ça débouche chaque été sur une présence des élèves d'interclasse à l'antenne de France Inter dans la grille d'été.
Donc voilà, donc on découvre le monde vraiment de l'intérieur. Et je pense que pour les élèves, ça les amène aussi à sortir de leur zone de confort et aller vers des choses vers lesquelles ils ne seraient jamais allés en fait si on n'avait pas ce dispositif. Puisque nous, on ne peut pas, je pense, leur ouvrir autant de portes. Après, donc, il y a les sorties qui les amènent à Paris. Mais enfin, toutes ces petites choses-là, pour eux, c'est quand même une ouverture sur un monde qui ne leur appartient pas et qui fait, je pense, la différence.
Ça vous a apporté quoi, vous deux, interclasse ? Jusque-là, vous en retenez quoi si vous deviez dire une chose ?
Moi, ça Eurydice. M'a apporté... mais ça m'a appris beaucoup de choses sur le monde du journalisme.
Ouais.
Et sur les actualités aussi, parce qu'avant je regardais pas du tout, mais maintenant je m'intéresse.
Et toi, Boulaye ?
Ça m'a fait prendre conscience que le monde de la radio, ben c'est bien. On peut faire plein de choses. Il y a beaucoup de sortes de tâches à réaliser et que c'est parfois compliqué.
Et que le présentateur est souvent en retard. Hein. T'as vu, je courais dans tous les sens tout le temps ce matin. Et je cours même pour lancer la météo tout de suite.
La météo, avec Préfonds, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur préfonds-retraite.fr.
Et merci beaucoup, beaucoup à tous les trois d'être venus en studio. Sébastien Léas.
Cet après-midi, des nuages s'infiltrent des côtes de la Manche à l'Aisne, l'ouest parisien jusqu'au Pays de la Loire. Cette couche nuageuse n'est pas très épaisse et des éclaircies arrivent à se dessiner, mais le ciel peut localement rester bien gris. En revanche, sur le reste du pays, c'est un après-midi sous un soleil radieux qui vous attend. On note juste quelques petits cumulus qui fleurissent par endroits pour décorer le bleu du ciel. Après un début de journée assez froid avec de nombreuses gelées, les températures maximales continuent leur progression, gagnant encore quelques degrés. Cet après-midi, le mercure affiche 11 à 16 degrés sur la majeure partie du pays, avec tout de même jusqu'à 18 degrés autour de la Méditerranée. Sur le quart sud-est, le vent est bien sensible avec des rafales voisines de 50 à 60 km par heure, voire 80 km par heure autour de la Corse.